jours avant 13h, Raphaël Duchemin, Elisabeth Assayag nous présente sa solution du jour.
Vous possédez une voiture, vous souhaitez peut-être la partager. Très pratique, hein, c'est vrai, en ces jours de grève, avec une nouvelle solution, Elisabeth. Elle s'appelle Quick City, K-W-I-C-K, plus loin, City, C-Y. C-I-T-Y.
Donc, j'ai plus besoin de les plaies, en fait.
Non.
C'est un service de covoiturage qui existe depuis à peine un mois. Hein, pour l'instant seulement à Paris. Et sa particularité, c'est que c'est de l'autostop en temps réel. L'application est très simple à utiliser. Elle est réversible hein, pour que l'on puisse soit être piéton, soit conducteur. Et si vous êtes piéton et que vous recherchez un conducteur, vous pouvez même voir sa photo, sa réputation, parce qu'il y a des notes sous forme d'étoiles pour choisir son chauffeur. Bonjour Sylvain Palix.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Quick City. Alors vous, on peut dire que vous avez eu la bonne idée au bon moment, parce que ça fait juste un mois et les grèves, ça dure depuis un peu plus de 3 semaines.
C'est en fait le hasard pour préparer Quick City. Que ce soit avec mon partenaire, Pierre Hubert, avec notre belle équipe de développement, Bear Studio, il nous a fallu un an et demi quand même. Et c'est un hasard de calendrier qui fait qu'on a lancé l'application il y a quelques semaines sur Paris.
Alors comment ça marche, Quick City ?
Alors c'est un système qui a été d'abord conçu pour le chauffeur, parce qu'à Paris, 80% des automobilistes ne covoiturent pas. C'est un sondage qu'avait fait la mairie de Paris. Le problème, c'est que souvent on propose le système trajet domicile-travail. Et c'est compliqué à mettre en place, il faut être à une heure précise, à un endroit précis, avec quelqu'un avec qui on a pris rendez-vous. Là, vous choisissez un lieu dans Paris et vous décidez d'y aller et les piétons seront mis sur votre route.
Mais comment ça les piétons ? C'est-à-dire que je suis en train de conduire et j'ai une notification comme quoi il y a un piéton qui m'attend au 32 rue de Rivoli et là je me trouve au 34 par exemple.
Tout à fait, l'application vous guidera même. Par exemple, si je choisis Basilique du Sacré-Cœur.
Donc j'y vais, vous cliquez sur j'y vais.
Voilà.
Les chauffeurs à proximité,
on est en studio évidemment, c'est un problème de passage d'onde.
Mais sinon, on vous indique les chauffeurs qui sont à proximité. Et là,
ça y est, on en a trouvé un.
Voilà, nous avons un chauffeur, je vois sa notation. Donc il peut y en avoir plusieurs en file indienne, ce qui permet par exemple.
Il est 5 étoiles, donc c'est un bon chauffeur.
Voilà, donc 5 étoiles, voilà,
ça
bien noté.
Ça signifie quoi ? C'est quoi les critères de notation ? Ce sont les.
Cordialité, sympathie, qualité de la voiture, qualité des échanges. Et pour que la qualité des échanges soit la plus parfaite, le chauffeur a pu définir 5 centres d'intérêt et se décrire en quelques signes, ce qui permet de préciser une langue ou un loisir qu'on pratique pour que les conversations soient vraiment épatantes pendant le quart d'heure ou les 20 minutes que dure le trajet dans Paris.
Comment le chauffeur reconnaît son piéton ?
Alors, c'est simple, quand le chauffeur arrive près du piéton...
Parce qu'il ne fait pas le petit signe avec le pouce.
Il y a un système très, très auto-stop, il appuie sur un bouton et l'immatriculation de la voiture défile sur le téléphone. Ce qui permet rapidement au chauffeur de visualiser son piéton dans l'espace.
C'est magique.
Bertil, en vous entendant, je me dis ça ressemble un petit peu à Blablacar, non ?
Alors, Blablacar traite le covoiturage moyen et longue distance. Nous, dans la première étape de développement...
Paris Intramuros.
C'est Paris Intramuros, mais on a déjà développé 200 villes autour de Paris pour la version 2, et on a un plan de développement vers d'autres métropoles françaises et étrangères. L'application, d'ailleurs, est d'emblée en anglais et en français.
Vous les trouvez comment, les chauffeurs ?
Les chauffeurs, c'est toute personne qui possède une voiture, qui veut réduire le coût de la voiture.
Mais vous les trouvez comment ? Comment ils s'inscrivent
Ils peuvent alors soit télécharger l'application via...
Non, mais comment ils vous trouvent ?
Ah, ils nous trouvent. On fait beaucoup de réseaux sociaux en ce moment. On les drague beaucoup via Instagram, via Facebook, via LinkedIn. Et on essaye de les séduire avec une formule qui leur permet de réduire drastiquement les frais de leur voiture.
Parce que c'est
combien ils sont payés ?
Voilà, on donne 40 centimes du kilomètre au chauffeur. S'il y a un deuxième piéton dans la voiture, on lui donne des points piétons pour qu'il laisse la voiture au garage. Ça, c'est le côté écologique. Et si dans le même trajet, il y a un piéton 3 ou 4, on met en place un crédit auto pour l'achat, un bonus pour l'achat d'un véhicule vert.
C'est épatant. Hein. Combien de personnes transportées ? On a déjà une idée. Vous avez des retours ?
Là, en un mois, en plus, vous avez...
Voilà, en un mois, on a passé hier le cap des 1200 inscrits.
Ouais.
Et chaque jour qui passe en ce moment, c'est par tranche de 50 ou 100. Enfin, j'arrondis parce que c'est très variable. Mais c'est vrai que les transports bouchés dans Paris nous donnent une occasion de nous faire connaître.
Et combien paye le piéton ?
Alors, le piéton, il paye 1 euro à l'embarquement, puis 50 centimes du kilomètre. Ce qui fait que c'est le prix d'un ticket de métro acheté par carnet de 10 quand on monte dans une voiture. Il faut savoir qu'un Place de la République Tour Eiffel, c'est à partir de 15 euros en VTC. Nous, on est trois fois moins cher. C'est 5 euros tarif constant, par exemple.
Donc, ça veut dire que aujourd'hui, vous êtes l'alternative quand on n'a ni transport en commun, ni les moyens de payer un VTC ou un taxi.
Voilà, c'est une alternative peu coûteuse et qui permet de faire de belles rencontres.
Comment est-ce que vous envisagez le développement, les prochaines étapes dans votre tête, c'est quoi ?
Alors, on envisage de gagner d'autres métropoles en France et on court après les investisseurs. Et également mettre à notre programme une grande capitale étrangère comme Londres, par exemple, puisque l'application est déjà en anglais. Or, le modèle de Quick City, qui est un système avec un fonctionnement par icône, hein, très simple d'usage, très facile à mémoriser, à utiliser, est adaptable. Et on peut d'ailleurs proposer aux municipalités des systèmes à la carte, c'est-à-dire ils veulent compléter l'existant en matière de transport. Par exemple, ils ont des lignes de bus, mais qui ne fonctionnent pas à certaines heures et qui ne couvrent pas tout le territoire. On peut faire un plan
un complément. Donc l'idée de développement, ce serait au-delà de s'adresser aux particuliers, c'est aussi peut-être de remporter des marchés auprès des collectivités.
Oui, parce que les collectivités sont quand même encouragées au travers de la loi LOM. La loi d'orientation des mobilités, sont encouragées à développer le covoiturage et les entreprises énormément auprès de leurs salariés. Il faut savoir que les entreprises, par exemple, elles ont droit à investir 400 euros par an par salarié au profit des déplacements, dont le covoiturage.
Et aujourd'hui, vos utilisateurs, puisque vous en avez déjà pas mal, ils vous utilisent pourquoi ? Pour aller au bureau, pour sortir ? C'est des touristes, c'est des locaux ?
Alors, on n'a pas fait encore de sondage, on n'a pas eu le temps de faire de sondage d'envergure, mais c'est des Parisiens pour les deux tiers et un tiers des touristes.
Ça s'appelle Quick City et ça vient tout juste d'être lancé à Paris. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'était La Solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 58.
On reste ensemble et si vous êtes en retard pour décorer le sapin, on arrive avec tout ce qu'il vous faut. Et Made in France, bien sûr. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 aujourd'hui à 4 jours du réveillon. On a décidé dans La France bouge d'aider les retardataires à mettre un petit peu de magie de Noël dans leur maison. Et même si vous êtes très très à la bourre, on a de quoi faire, vous allez voir. Alors j'entends déjà le débat sur pour ou contre le sapin coupé, pour ou contre le sapin en plastique. Eh bien nous, on a trouvé une autre option, mon sapin Woody, W-O-O-D-Y. Bonjour Luc Sarrazin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le créateur de ce sapin pas comme les autres. Il est en bois, mais en bois de récup. Et faire des sapins, ça n'était pas vraiment votre métier, puisque vous étiez commercial au départ.
J'étais commercial, oui, tout à fait. Après une formation...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Rien, le hasard de la vie qui fait qu'on arrive, on chemine et on arrive à... Un sapin de Noël, non. Après, j'ai une menuiserie industrielle donc sur Lyon.
Et donc vous avez fait une formation de menuisier.
Oui, après un long parcours en communication et aussi en commercial, j'ai fait une transition professionnelle et donc je me suis lancé dans la menuiserie. Et donc j'ai racheté une menuiserie industrielle qui est spécialisée dans les éléments techniques pour portes techniques, donc strictement rien à voir avec les sapins. Mais on générait énormément de chutes de bois.
Et vous avez commencé à réfléchir à comment on pouvait les réutiliser.
Exactement. Et sous l'impulsion de mon épouse qui m'a dit un jour, à la veille de Noël, j'aimerais avoir un sapin qui ne perd pas ses aiguilles. Donc c'est quand même pas commun. Et donc du coup, je suis allé à l'atelier, j'ai empilé 2-3 bouts de bois et c'est là qu'est né mon sapin Woody. Et on a lancé, il y a maintenant 3 ans et demi. Donc ça a été totalement confidentiel au départ. Et puis maintenant, on est arrivé à être connu et à en vendre de plus en plus.
Alors au début, effectivement, il y a une grande enseigne qui vend vos sapins, hein, qui se dit « moi ça m'intéresse ».
Exactement.
Et puis une deuxième, et puis vous commencez à faire des tailles différentes.
Exactement, des tailles différentes, avec des modèles différents, même avec des essences différentes. Parce que la plupart du temps, on recycle des bois classiques, type l'épicéa, le pin... Mais aussi, on a des demandes maintenant sur des bois nobles, comme le chêne ou le hêtre, et on fait même du sur-mesure. Mais tout au départ, effectivement, on était sur des produits bien standardisés, donc avec le petit 40 cm qu'on a sous les yeux, mais qui est en fait l'exemple...
Qui est avec nous sur europe1.fr.
qui est sur l'exemple du type de sapin qu'on peut faire, mais qui après se décline sur différentes tailles.
Alors, vos bois, vous les prenez dans des forêts éco-responsables?
Exactement.
En Bretagne, dans le Jura, dans les Landes?
Exactement, c'est des bois qui sont de toute façon certifiés, parce que nous, notre filière est certifiée PEFC, FSC, sans les nommer. Et donc du coup, on est dans l'obligation d'acheter des bois qui sont certifiés. Après, pour qu'on soit cohérent avec le concept du recyclage et de la production en interne, je voulais avoir des produits français, des bois français. Donc on n'a que des bois français. Et on n'a que de la main-d'œuvre française.
Et oui, parce que vous travaillez, c'est important de le dire, avec un atelier du Nord et aussi avec des ESAT.
Exactement, tout à fait. En fait, c'est un peu vertueux. C'est une histoire en fait qui a commencé par une simple chose, mais après c'était de dire comment on fait pour amener d'autres arguments sur ce produit-là. Et donc il y avait le bois recyclé, il y avait effectivement le bois français. Et moi, comme je n'avais pas la capacité de tout fabriquer, donc du coup, je me suis allié avec des ESAT ou CAT, au fait, où on fait de la réinsertion professionnelle.
Centré par le travail.
Et donc du coup, après, on rentre dans un club, c'est-à-dire que ça emmène tout le monde, quoi, ce projet-là. Donc,
ça s'entend, en tout cas.
Vous nous
emmenez aussi avec vous. Bertil Burel, notre coach.
Moi, je trouve le sapin magnifique et j'imagine en plus parce que c'est comme un jeu de capla qu'on va monter chaque année avec les enfants. Mmh. Donc c'est vraiment super et de savoir que c'est des chutes, que c'est renouvelé. Moi, j'ai une question, c'est jusqu'à quelle taille vous faites ça qu'est-ce qui se vend le plus?
Alors, ce qui se vend le plus aujourd'hui, on a un site marchand et en fait, on voit tout à fait ce qui se vend. En fait, c'est du 1 mètre et le 1 mètre 60. Mais aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50 maximum, parce qu'après, on a un phénomène de ballon. En fait, le mât, en fait, tient pas assez. Donc, du coup, il risque de se casser. Donc, on est un peu limité par ça. Mais après, peut-être retrouver d'autres choses. Mais pour le coup, on va complètement perdre l'histoire du bois, du recyclé, parce qu'il faudrait faire des mâts métalliques, il faudrait faire des choses comme ça. Donc,
Et où est-ce qu'on vous achète?
Où est-ce qu'on achète? Alors, bon, il y a des grandes enseignes qui vendent mon sapin Woody, et puis on a un site marchand aussi.
Comment?
Un coûte combien, ça, par exemple?
Celui qu'on a
celui-ci,
là en antenne.
Celui-ci coûte 25 euros, le 1 mètre, il coûte 54 euros, ou 53 euros, le 1 mètre 60, 94. Et par exemple, pour le 3 mètres, qui est un... Là, on a énormément de lames de bois, on monte jusqu'à 500 euros à peu près.
Mais une durée de vie...
Éternelle.
Vous en avez vendu cette année 8200 de sapins.
Ouais.
Vous en avez plus?
Non.
C'est le dernier qui est avec nous.
Oui, je voulais amener.
Vous arrivez aussi en Belgique?
Alors,
je crois.
Oui, alors,
ça,
parce qu'en fait.
Hein.
Mais non, mais l'histoire, elle est. Après, on va croire que c'est tellement merveilleux que c'est... Enfin, voilà.
Écoutez, c'est la magie de Noël.
Voilà, exactement. En fait, j'ai la chance d'avoir un de mes frères qui habite en Belgique et une de mes sœurs qui habite en Angleterre. Et donc, du coup, d'un côté, on a un infographiste en Belgique et de l'autre, on a une garden designer à Londres. Et donc, on a décidé de monter ce projet, de monter en puissance sur ce projet et de créer, en fait, des pôles sur la Belgique et sur l'Angleterre. Alors, sans base projet... En tout cas, c'est une base projet qui va se concrétiser, parce qu'on part à Francfort donc le 22 et 29 janvier pour le salon de Noël international. Et donc, on va proposer et on va voir si on a des approches sur la Belgique ou l'Angleterre.
Elisabeth, d'un mot, vous nous dites le marché du sapin, on est comment? C'est un gros
marché.
Mais vous
savez que nous, en France, on adore acheter des sapins Noël. Nous sommes de plus en plus nombreux à en acheter, hein, 7,1 millions de sapins vendus. Parmi eux, il y en a 86% qui sont naturels, 14% seulement artificiels. Alors les vôtres, on va les mettre dans une autre catégorie parce que c'est un nouveau genre de sapin de Noël. Prix moyen pour un sapin entre 26 et 27 euros. Et donc c'est un marché toujours plus important. Il est estimé à plus de 185 millions d'euros.
On reste ensemble et on parle de Noël aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Et si on ajoutait la déco pour que la fête soit complète, La Rochère s'en charge, elle fait désormais des boules de Noël à l'ancienne. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin. Et comme c'est bientôt Noël, émission spéciale pour bien se préparer. Nos invités du jour ont des solutions, pour vous d'ailleurs. Et vous pouvez intervenir en direct, bien sûr, avec le 39 21, 50 centimes la minute.
Et chez La Rochère, l'histoire d'amour avec le verre commence en 1475. C'est à ce jour la plus ancienne verrerie de France. Mais comme La Rochère est spécialisée dans les arts de la table, elle a décidé un beau jour de se lancer dans la fabrication des boules de Noël. C'est assez récent, 2017, parce que finalement, avant, les boules de Noël, souvenez-vous, elles étaient en verre. Merci d'être avec nous. Bonjour Nicolas Bigot.
Bonjour.
Vous avez très peu de pièces par collection, mais ce sont des pièces exceptionnelles, ces boules de Noël de La Rochère. Comment est venue l'idée, comment est venue la première boule ?
Alors, c'est vrai que avant de faire des boules de Noël, on a une activité qui est donc à la fois industrielle et artisanale, qui est assez diverse. On fabrique des produits pour le bâtiment également. On fait des tuiles de verre, des briques de verre, on fait des carreaux muraux. On travaille pour des architectes, on fait des produits sur mesure. Donc, pour vous donner globalement une idée de l'entreprise.
Et des arts de la table. Donc
et des arts
verres.
De la table, voilà. Donc, l'art de la table représente plus de la moitié de notre activité. Et au sein de cette activité, donc on fait de la décoration aussi, on fait des luminaires et des vases. Et on s'est mis en 2017 à faire des boules de Noël.
Mais pourquoi ? On vous l'a demandé ?
Alors, on nous l'a demandé. C'est vrai qu'on est dans l'Est de la France et que donc Noël est très présent et c'est très animé, on va dire. Donc, on nous a suggéré et on a vite aussi compris que c'était intéressant pour nous de créer de l'animation au moment de Noël, puisqu'on a donc une dimension touristique aussi. On a 70 000 visiteurs par an qui viennent à la verrerie. Et donc, pour animer ce mois de décembre, on propose aussi aux visiteurs de venir regarder les verriers pour admirer le spectacle et en même temps repartir avec des boules de Noël.
Alors, 2017, l'aventure des boules de Noël commence. Vous en faites peu, hein. Vous commencez avec très peu de pièces. Pour quelle raison ? Parce que vous voulez justement que ça reste un objet particulier. Elles sont, c'est vrai, magnifiques.
Oui, et puis on voulait, c'était un peu expérimental, c'est-à-dire qu'on a plein de savoir-faire différents. On sait faire du bullet, du craquelé, on sait faire de la couleur, manier des couleurs, mixer des couleurs. Mais il fallait que notre équipe puisse essayer un petit peu à ce produit.
Parce que c'est différent de souffler un verre ou de souffler une boule de Noël ? Il faut lui donner une forme particulière. Comment ça se passe ?
Alors,
c'est soufflé
en fait,
à la bouche ?
C'est soufflé bouche. Hein, donc, chez nous, elles sont faites à deux personnes. Donc, vous avez une personne qui cueille un morceau de verre. Ça, c'est pour le travail à chaud. Hein, qui l'amène ensuite à une autre personne qui va le rouler dans un outil en bois qu'on appelle la maillotche, qui va donner donc, à la boule une première forme ronde. Ensuite, il va laisser refroidir un petit peu cette poste, puisqu'on appelle ça comme ça, pour ensuite aller appliquer de la poudre, des grains, qui en fait c'est de l'émail de couleur, et ensuite donc réchauffer tout ça pour que cet émail se fonde avec la boule, et ensuite retourner au pot, donc au four, pour recouvrir à nouveau de verre la boule.
Ça, ce sont les premières étapes.
Voilà,
après, il y a évidemment toute la décoration qui va intervenir et qui est très importante. Vous avez chaque année une collection différente. Hein. Il y a eu 2017 la première, 2018, 2019. Là encore, vous innovez.
Oui, c'est-à-dire qu'on a élargi en fait le choix. On s'est mis à faire donc des boules bullées, des boules craquelées, à mélanger de la couleur. Et puis également, on a créé une série limitée. Tous les ans, on fait une boule en série limitée. Donc, ça peut être 50 pièces. Cette année, c'est le cas. Et donc, cette année, nous avons fait une boule qui est très spécifique. Ça, c'est vraiment un savoir-faire spécial chez nous, qui est en verre multicouche sablé. Donc, vous avez trois ou quatre couleurs sur la boule qui sont en fait... une couche de verre à chaque fois, l'une sur l'autre. Et ensuite, il y a un travail à froid de sablage et de pose de pochoir pour obtenir ce décor qui est à relief, du coup, et qui est ensuite fini à la main pour obtenir des nuances. Et ces boules sont numérotées également.
Numérotées, elles ne sont vendues qu'en France sur de petites séries. Voilà. Bertil Burel, notre coach.
Dans le studio, on a une magnifique chouette sur une des boules. Comment vous avez fait ça?
Alors justement, c'est ce que j'expliquais là. Ça, c'est la boule 2019. Donc on a dessiné ce motif à plat ensuite on l'a imprimé sous forme d'adhésif. Cet adhésif a été posé sur la boule et par opération successive de sablage, on vient découvrir la couche de couleur qui nous intéresse à l'endroit où on le souhaite.
Est-ce que vous avez les verres assortis?
Pour l'instant non, mais on est ouvert à toute suggestion. On pourrait réaliser un verre, on pourrait faire un vase, on pourrait faire une lampe comme ça.
Vous pourriez envisager de développer cette activité à part entière, ne faire que des boules de Noël aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose de possible?
C'est quelque chose qui devrait se développer, c'est sûr, chez nous. Après, est-ce qu'on ne peut faire que ça? On a une équipe de 6 verriers aujourd'hui, donc on a encore une activité artisanale à destination de la table. On fait encore des verres à vin, des verres à pied en cristallin. Est-ce qu'on pourrait occuper toute l'équipe avec juste les boules? Je ne pense pas. Je pense que ça va se développer. Voilà, on peut dire ça comme ça.
On reste ensemble et on continue à parler de Noël aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1.
L'arbre est décoré, nous reste à glisser les paquets au pied du sapin. Et si on donnait une idée au Père Noël pour les emballer grâce à Starface? À tout de suite.
La France bouge continue jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, mais avec aussi vos invités venus nous parler de leur entreprise qui peuvent bien vous aider pour Noël. Alors si vous avez la moindre question, posez-la sur les réseaux comme Twitter avec le hashtag Europe 1.
Vous en avez peut-être marre des Pères Noël, des reines ou du papier rouge qui emballe vos cadeaux. Et bien voilà une nouvelle idée qui va permettre de personnaliser les présents que nous trouvons au pied du sapin. Bonjour Alban Vental.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Starface, S-T-A-R-F-A-C-E. C'est une entreprise qui propose du papier cadeau personnalisé. Tout commence en fait avec un start-up week-end quand vous rentrez de Singapour. C'est bien ça?
Exactement.
On est en 2015?
2015, je rentre de Singapour après 2 ans là-bas. Et on part avec mon associé faire un start-up week-end avec l'idée de créer un produit livré et en ligne le lundi. Du coup, on a commencé avec des masques en papier que les gens commandent pour faire une surprise pour des pots de départ, des enterrements de vie de garçon, des mariages ou des anniversaires. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que les gens adoraient mettre leur visage sur différents types de produits. Du coup, à partir des masques, on s'est dit l'an dernier, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre comme type de produit? On a testé différents concepts et on s'est intéressé aussi au papier cadeau, puisqu'en fait, nos masques qu'on vendait, c'était surtout pour des événements et des surprises et des cadeaux. Du coup, le papier cadeau était assez logique dans cette approche.
Le papier cadeau arrive. Et alors, comment ça marche? On vous envoie les photos qui nous plaisent et vous les faites imprimer.
Alors exactement, nous l'idée c'est qu'on vend
exclusivement... Là on a un très beau papier sur Europe1.fr avec vous déguisé en Père Noël, en lutin ou en bonhomme de neige. Hein, quand
exactement,
même.
Ça c'est un de nos modèles, on en a plus de 40 aujourd'hui en ligne. Donc en fait, nous on vend exclusivement sur notre site internet pour permettre aux gens de personnaliser. C'est difficile sur d'autres plateformes ou en magasin de le faire. Du coup en ligne, les gens arrivent sur la fiche produit, choisissent le motif du papier cadeau qu'ils souhaitent imprimer, nous envoie la photo de la personne qu'il souhaite mettre sur le papier cadeau. Nous, on récupère cette photo, on fait le détourage du visage, on le positionne sur nos modèles, on imprime et on envoie chez la personne qui a commandé.
Vous avez plusieurs motifs, donc, comme celui-ci. Il y a effectivement le traditionnel. Vous en avez d'autres?
Alors, nous, on décline sur différents types d'événements. Donc, on a 7 modèles pour Noël. Donc, un modèle lutin, où on se transforme en lutin, en petit Père Noël, des modèles plus classiques avec des flocons de neige, d'autres petits Père Noël, etc. On a des modèles aussi pour les anniversaires, où un peu plus drôle, avec on peut se transformer en chevalier, en princesse, etc.
Vous avez choisi du papier classique, pas du papier glacé, et ça aussi c'est important de le signaler, parce que du coup c'est recyclable.
Exactement. Parce que les papiers cadeaux classiques qu'on achète en magasin, en fait, sont plastifiés et sont pas recyclables comme, Une fois, ils vont pas dans la poubelle jaune. Une fois qu'on les a utilisés. Nous, on a fait un parti pris qui est simple. C'est genre en termes de coût pour le consommateur et aussi en termes de recyclage, on a fait le choix du papier classique, dans un papier assez fin pour un pliage des papiers cadeaux optimisé et aussi un rendu idéal.
Elisabeth, les emballages cadeaux, c'est vrai que c'est une tradition 100% Noël. Hein.
Oui, et d'ailleurs, vous savez que le Père Noël va nous offrir en moyenne 7 cadeaux cette année. Enfin,
j'ai hâte.
Là, nous avons tous hâte, mais pour emballer tous ces cadeaux, il va falloir employer donc du papier cadeau. 20 000 tonnes de ces emballages vont finir à la poubelle, donc heureusement que vous êtes là. C'est l'équivalent de 380 000 arbres.
Et à part Starface, il y a d'autres Français qui fabriquent encore du papier cadeau.
Vous avez la papeterie du Poitou qui produit chaque année 16 millions de mètres de papier cadeau. Il fait partie des leaders hein, dans ce secteur, avec 16 millions de mètres linéaires produits chaque année. Et la papeterie du Poitou, c'est une entreprise qui ne date pas d'hier. Elle a été fondée en 1947 et autrefois, elle produisait du papier de boucherie. Et ensuite, elle s'est spécialisée seulement et uniquement dans l'emballage cadeau.
Bertil Burel, notre coach fondatrice de Wonderbox, que pensez-vous de ce papier cadeau ?
Alors, je suis assez étonnée par le concept et en même temps, je vois l'aspect très, très ludique. Est-ce que votre cible est principalement pour les enfants ? Parce que j'imagine un anniversaire où en fait, un petit enfant voit son visage sur le papier, il doit être dingue. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est les enfants
le principal ? On a différentes typologies de clients, mais effectivement, les parents, du coup, adorent le concept et on a beaucoup de photos d'enfants. On a aussi des gens qui mettent les photos de leurs animaux. On a des gens qui font, pour un anniversaire d'un copain, voilà, on a un bodybuilder, du coup, sur un des personnages. On sait que c'est des jeunes qui ont envie de se marrer avec leurs amis, qui vont offrir le cadeau avec ce papier cadeau-là.
Côté tarif, combien ça coûte de personnaliser son papier ?
Alors, la feuille de 1 mètre sur 60 cm, c'est à partir de 7,90 €.
Ouais. Il y a un tarif dégressif, en fait.
C'est dégressif.
Hein, plus on en achète et plus le prix va baisser.
Exactement, parce que pour nous, l'idée, c'est que c'est un vrai travail artisanal. Hein. On vend exclusivement en ligne, on fait du numérique, certes, mais c'est de l'artisanat. Et en fait, comme on fait à la demande, on est obligé d'avoir des coûts à l'unité assez hauts. Ce qu'on cherche à faire, c'est justement se dire, plutôt que de commander plusieurs fois dans l'année, je vais commander pour tous les anniversaires que je vais faire dans l'année et je vais avoir des prix très concurrentiels et très intéressants.
On reste ensemble et on continue à parler de Noël aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Et on vous attend bien sûr 3921, Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous. À tout de suite.
Le réveillon de Noël, c'est déjà mardi. Alors pour être sûr d'avoir pensé à tout, la France bouge se met aux couleurs des fêtes. Raphaël Duchemin, vos invités ont des solutions françaises pour nous aider dans ce grand moment. Et peut-être que nos auditeurs aussi. Alors si c'est
J'espère.
Le cas, laissez-nous un message sur le hashtag Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Nous sommes avec Luc Sarrazin, fondateur de Mon Sapin Woody, un sapin éco-responsable en bois recyclé. Nicolas Bigot, directeur des arts de la table chez La Rochère. Verrerie depuis 1475, qui commercialise depuis 3 ans maintenant des boules de Noël faites à la main. Et Alban Vantal, cofondateur de Starface, le papier cadeau 100% personnalisé. Notre coach, c'est Bertil Burel, fondatrice de Wonderbox. Et évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Tiens, Elisabeth, puisqu'on parlait de sapin, il vaut mieux opter pour un sapin made in France. Et je crois qu'il y a quand même, en dehors de Mon Sapin Woody, quelques entreprises qui sont sur le créneau.
Oui, il y a même des labels, hein, Plantes Bleues, par exemple, qui certifient une démarche de production respectueuse de l'environnement. Vous avez des start-up comme Trismas qui proposent de louer un sapin en pot qui sera ensuite récupéré chez vous et replanté dans la nature. Je trouve que c'est une excellente idée. Vous avez l'Association française du sapin de Noël naturel qui assure que ces sapins ne contribuent pas à la déforestation puisqu'ils ne sont pas coupés en pleine forêt mais issus de plantations spécifiques dans le Morvan et dans le Jura.
Luc Sarrazin, on sent bien qu'il se passe aussi quelque chose hein, au niveau du sapin de Noël. Les gens hésitent à aller acheter un sapin coupé. Il y a une prise de conscience qui s'est opérée. C'est aussi pour ça que vous, aujourd'hui, vous avez ce succès ?
Oui, je pense, oui. Mais très clairement, quand on achète un sapin de Noël, de façon peut-être pas objective, mais on pense au fait qu'on a coupé un arbre. Et couper un arbre, c'est toujours un peu traumatisant, quoi. Mais donc, du coup, effectivement, on peut le penser. Après, est-ce qu'il y a un engouement là-dessus ? Je ne suis pas encore tout à fait sûr. Il y a aussi l'engouement du sapin artificiel. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à peu près 14% du marché. Bon, après, de dire qu'il y a aujourd'hui une tendance, je pense qu'il y en a une. Est-ce qu'elle est vraiment marquée ? Je pense pas encore.
Ça va
parce
venir.
Que je pense qu'il faut communiquer là-dessus pour
et que ça rentre
inciter
dans les
gens à le faire.
Voilà. Nicolas Bigot, on a vu que vous faisiez des boules qui sont exceptionnelles. La première année, je disais 150-200. Cette année, 1000 boules de Noël. Comment est-ce que vous voyez le développement de cette activité-là ?
On va continuer de toute façon à décliner, à créer des nouvelles couleurs, à créer des nouvelles finitions. On a en projet également de travailler de la personnalisation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on a beaucoup de boules qui sont achetées sur place après avoir visité les verriers. Donc, en fait, on vend aussi une expérience, c'est-à-dire qu'on vient voir une boule se réaliser. C'est quand même assez magique. C'est du verre en fusion. C'est vraiment un spectacle, quoi. Donc, on a ce projet d'essayer de faire des produits un peu plus uniques et personnalisés, quoi.
Et si on veut les voir d'un peu plus près avant de se déplacer en Haute-Saône, on va sur votre site ?
Oui, sur notre site internet larochère-store.com.
C'est là aussi qu'on pourra évidemment les acheter.
Voilà. Une partie en tout cas.
Alban Vantal, la personnalisation, c'est déclinable à l'infini ?
Exactement, et c'est ce qu'on fait. Cette année, on a lancé des chaussettes personnalisées où les gens peuvent nous envoyer une photo de la personne qu'ils veulent mettre sur leur chaussette. Et on crée des chaussettes avec la tête des gens dessus.
Ouais, je ne suis pas sûre que les gens apprécient d'être sur les chaussettes.
Écoutez, détrompez-vous, ils adorent, c'est vraiment notre carton de l'année.
Ils adorent, c'est vrai. Bertil, une question ou peut-être une remarque ? Ça fait beaucoup rire, Bertil, les chaussettes.
Les chaussettes, c'est que le début. Genre, 2020, on va arriver avec des gros dossiers. Ça va être drôle.
Oui. Vous reviendrez nous en parler.
Le slip, entre autres.
Ah oui, je m'en doutais, je vous voyais venir.
Ouais, je suis juste impressionnée. Ça fait 2000 ans qu'on fête Noël. Et en fait, on a encore des choses à créer, à inventer. Et je vois qu'on n'est pas en reste en France. Donc, c'est super de constater ça.
Et j'espère que ça va continuer justement, cette inventivité, cette créativité. Merci à tous les trois d'être venus. On vous souhaite évidemment un très joyeux Noël.
Il est 13h46.
Europe 1.
Et on reste ensemble, évidemment. Dans quelques instants, on va découvrir une entreprise qui a 100 ans cette année, qui prend soin de nos cheveux. C'est Eugène Perma et c'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Vous écoutez La France bouge et il est temps, Raphaël, de s'intéresser à l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Eugène Perma. Bonjour Didier Martin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de cette maison qui prend soin de nos cheveux depuis 100 ans maintenant. Au départ, je crois que c'est un Suisse qui se lance dans l'aventure et qui invente l'appareil à ondulation permanente.
Absolument. Voilà, c'est un Suisse qui s'appelle Eugène Sutter. Il nous laisse son prénom dans notre marque Eugène Perma. Et c'était en 1919, voilà, il y a juste 100 ans, et il trouve que les femmes, pour être jolies, doivent avoir des cheveux ondulés, et surtout des cheveux ondulés qui durent dans le temps. Et il découvre, en travaillant sur des produits, l'ondulation permanente, ce qu'on appelle l'indéfrisable. Et il lance la mode de l'indéfrisable qui fera grand bruit tout au long du XXe siècle, en tout cas dans sa première partie.
Alors c'est le point de départ de la création de la société, mais elle devient Eugène Perma beaucoup plus tard,
oui.
1934.
1934, en fait, c'est l'autre naissance de la branche de Eugène Perma, c'est Perma. Voilà, spécialiste de la permanente, donc on voit déjà deux spécialistes de la permanente. Mais on va se souvenir que historiquement, on ne parle pas de coloration, de styling, etc. déjà à l'époque. Et là, on est dans de la permanente à liquide, c'est-à-dire des produits liquides qu'on va mettre sur la tête, y compris plus tard avec des méthodes, entre guillemets, chauffantes, et donc un appareil qui va chauffer, ce qu'on appelle des chauffeurs. Vous allez mettre ça et ça va remplacer des bigoudis.
Le cheveu va boucler.
Le cheveu va boucler.
Ils vont développer de nombreux partenariats avec les coiffeurs. Et puis là, pour le coup, au début des années 50, ils sont précurseurs dans un autre domaine, les fameux produits de coloration.
Oui.
Avec le kit dans les années 60.
Absolument. Voilà. Alors, ils sont précurseurs, non pas sur la coloration, parce qu'ils sont un des coloristes, Mais ils sont précurseurs sur la coloration gel, 1954. Hein, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. 1954, ils sont précurseurs parce que c'est une technique qu'on utilise toujours, qui est le gel, contrairement à la crème. Voilà. Et puis ensuite, on est précurseurs avec des kits de coloration sur la marque Eugène Color, qui est la marque qui est leader en France en volume, devant toutes les autres marques.
La quasi-totalité des produits, je dis quasi parce qu'il y a une toute petite partie qui n'est pas fabriquée en France, mais sinon, tout se passe à Reims.
Tout se passe à Reims, voilà. C'est la France des terroirs et des territoires. Et pour Eugène Perma, c'est extrêmement important. Parce qu'on a nos commerciaux à travers la France, évidemment. Et puis à Reims, depuis 1963.
Hein, avant, oui, parce on avait que vous avez rapatrié une partie des...
Alors ça, c'est une politique où on a été novateur. On dit casser les codes. Alors nous, on a cassé les codes en 1996. J'ai pris cette présidence de société en 1995. J'étais arrivé 10 ans plus tôt. Et dans l'analyse que j'avais de cette société, pour l'ancrer, entre guillemets, durablement, il faut faire du Made in France. Il faut faire du fabriqué en France, mais du vrai. Et du coup, je décide de fermer les usines qui sont en Espagne, en Italie, en Belgique, et tout rapatrier à Reims, dans le centre-ville. Puis plus tard, on va migrer vers la zone industrielle de Reims avec des investissements. Oui. C'est une volonté. Ce n'est pas un drapeau bleu-blanc-rouge qu'on met sur un packaging.
Non, c'est de A à Z. C'est une vraie stratégie.
Voilà. Le labo, le marketing.
Vous avez aussi mené, et ça c'est important de le signaler, une politique de rachat importante. Hein. Quand on regarde les marques qui sont les vôtres aujourd'hui, il y en a énormément qu'on connaît, ne serait-ce que Petrolane.
Oui. Ah oui, donc Petrolane, c'est une icône, carrément, parce qu'il nous devance par rapport à notre centenaire, c'est 1885, donc c'est 130 ans l'année prochaine. Et en fait, c'est une politique, c'est une stratégie finalement. On se dit qu'une taille d'ETI familiale, française, dans la cosmétique française, hein, des fleurons de l'Est au niveau de Reims, mais même de la France, il faut qu'on fasse des choix. On ne peut pas se battre partout, sinon on n'aura pas les moyens. Donc on se bat sur la coloration, on se bat, on est leader, comme je l'ai dit, avec Eugène Color, on se bat sur les shampoings, les soins, etc. Et puis on a l'opportunité, en 1998, d'acheter la marque Petrolane. On fait cette opportunité parce que pour nous, ça nous place directement comme leader, là encore, de toute la partie shampoing, soins masculins. Et puis ça nous ouvre les portes de la grande distribution beaucoup plus qu'on ne l'était avant. Voilà. Puis ensuite, on va acquérir d'autres sociétés, dont une société de soins visage avec des masques et soins épilation, qui est du sud-ouest de la France, 2018. Et c'est la société Laurence Dumont avec une marque Loire.
C'est pour ça que je parlais de cette politique de rachat. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que finalement, en 100 ans, il n'y a eu que 4 patrons. Vous aimez bien d'ailleurs.
Ouais, j'aime bien ça, oui.
On est 4 seulement.
Et j'aime bien ça. 25 ans chacun. Et en fait, bon, je sais ça par cœur, mais finalement, pas si par cœur que ça. Donc, je me suis plongé un peu dans l'histoire. En fait, je suis le 4e président de cette société depuis 25 ans ces jours-ci. Et avant moi, il y en a eu 3. Alors, il y a eu le fondateur. Le fondateur, il a fait 28 ans, donc il a marqué plus que les autres son truc. Et puis ensuite, on a eu deux patrons, et puis Didier Martin est arrivé en 95. Et c'est une histoire familiale, parce que mes deux filles sont avec moi au comité exécutif.
Et elles ont commencé en bas de l'échelle, c'est important de le signaler.
Parce et après que ça des études tout à fait correctes, il fallait, elles ont commencé en bas de l'échelle. L'une, qui est la patronne marketing, a commencé comme représentante en Picardie, en grande distribution. Voilà.
Bertil Burel.
Je trouve ça magnifique, une histoire familiale française. C'est un peu comme chez moi. Et vous êtes français, mais je suppose que vous exportez énormément.
Oui. 56 pays.
Hein. Oui, pas assez encore.
Et quel est le pourcentage de votre chiffre d'affaires à l'étranger?
25% seulement. Donc on voit qu'on est très franco-français encore. Donc c'est une belle page d'histoire qu'il faut d'ailleurs. Et mes filles vont être là avec le comité exécutif qui m'entoure pour développer aujourd'hui mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Et on peut mieux le faire aujourd'hui parce que la stratégie qu'on déploie depuis maintenant 2-3 années, c'est des produits précis. C'est-à-dire au lieu d'avoir un catalogue que l'on a, bien évidemment, c'est des produits, par exemple, de bio, là où on est en train de faire une très belle introduction en Corée, sur la marque Naturanov Bio. Voilà.
Qui est une marque nature, gamme 100% nature que vous avez lancée avec des produits recyclables, etc., des matières recyclées. Vous êtes très investi aujourd'hui.
Oui.
C'est Eugène Perma, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Didier Martin d'être venu nous la présenter.
C'est un grand plaisir.
Merci à Bertil Burel, fondatrice de Wonderbox, d'avoir été avec nous. On se dit à l'année prochaine, bien sûr, passez de joyeuses fêtes. Elisabeth, Justine, nous aussi, on se souhaite de passer de très bonnes fêtes.
Oui, très belles fêtes.
Et vous nous retrouvez, évidemment, à partir de lundi. On sera là, en rediffusion, spécialement pour vous. On vous a gardé les meilleurs moments de La France Bouge.
Merci Raphaël Duchemin, bonne fête et restez avec nous, surtout dans quelques minutes. Christophe Fondelatte vous raconte une nouvelle histoire sur Europe 1.